J'ai appris à connaître Karim Areski au sein de notre union d'église, puisqu'il a été responsable de l'église baptiste de Paris Tabernacle. Et je suis dans le conseil de la même union d'église. Et depuis quelques années, j'ai appris à le connaître dans un autre contexte et à l'apprécier beaucoup en tant que croyant, connaissant l'islam de façon approfondie. Et je le remercie au nom de Évangile 21 d'être avec nous pour l'édition 2018 du séminaire Évangile 21. Et je lui laisse, après un temps de prière, sans plus la parole. Il a prévu une quarantaine de minutes d'exposé, et puis il nous restera 20-25 minutes de temps pour des questions-réponses. Tout cela en 1h15. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les frères et les sœurs que tu nous donnes, merci pour ton esprit, merci pour ta présence au milieu de nous, merci parce que tu es lumière et parce que tu veux continuer à nous équiper, à nous conduire, et nous nous remettons entre tes mains pour cette heure qui est devant nous, en te demandant de permettre qu'elle nous équipe et nous accompagne sur le chemin du service que nous voulons vivre devant toi, pour toi et avec toi. Amen. Merci beaucoup, Karim. Je surveillerai un tout petit peu la montre, mais c'est tout pour mon rôle.
Il faut faire attention, sinon on surveillera la montre aussi quand ton tour arrivera. Voilà, celui qui présidera son atelier peut prendre note d'emblée. Pas de souci pour enregistrer, pour filmer. J'ai appris à ne dire rien devant les chrétiens que je ne puisse assumer devant mes amis musulmans, y compris les membres de ma famille musulmane. Donc, il n'y a pas de souci. Tout ce que je peux dire ici, je l'assumerai pleinement. Quel avenir pour le croyant musulman? Quelle est la fin ultime dans l'islam pour un musulman qui répond aux exigences de sa religion? Quels sont les bienfaits, les récompenses, les félicités promises à un fidèle musulman dans le Coran, dans la théologie musulmane? Et parmi les belles choses connues du grand public, c'est surtout ces fameuses femmes vierges, les houris, en arabe, qui sont réservées aux fidèles. Mais qu'en est-il pour les femmes musulmanes? C'est simplement pour les croyants et pour les femmes. Quelles sont donc les récompenses promises aux musulmans? Quel destin pour un musulman croyant d'après la religion musulmane? Quelles sont les bases d'accès à ce paradis? Est-ce qu'il les œuvres seules, comme nous avons toujours l'habitude de l'entendre, ou bien est-ce qu'il y a la place pour la grâce? J'aimerais tenter de répondre lors de cet atelier à ces questions, et aussi, si vous avez d'autres questions, je tenterai également de répondre. Mais pour introduire cet atelier, j'aimerais vous lire un passage de l'Épître aux Corinthiens. C'est dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre donc 3. J'aimerais vous lire simplement les versets 10 à 15. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur. L'apôtre Paul évoque ici un jour où chacun devra rendre des comptes de son œuvre, et les questions des récompenses et les questions du salut aussi dans ce passage. Et c'est devant le tribunal de Christ qu'il faut rendre des comptes au dernier jour, un tribunal auquel personne ne peut échapper, comme l'indique l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 10, un verset qui a été posé comme question ce matin. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien, le mal qu'il aura fait étant dans son corps. La théologie musulmane met l'accent d'une manière considérable sur le jour de jugement, un jour où tous les hommes devront rendre des comptes aussi à Dieu de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait au cours de leur vie terrestre. Cet enseignement est tellement important qu'il est devenu l'un des fondements de la théologie musulmane, l'un des piliers de l'islam. Il faut croire bien sûr en Dieu, dans les anges, les prophètes, les écrits prophétiques, et le cinquième pilier, c'est le jugement dernier. Mais si cet article de la foi musulmane arrive qu'en dernier lieu, il ne faut pas se tromper quant à son importance. Elle est capitale dans la prédication et dans le message de Mohammed. L'eschatologie, la fin des temps, et l'eschatologie et le jugement dernier sont au centre de la prédication de Mohammed. Et c'est un sujet qui prend une place nettement plus importante que bien d'autres sujets. Il y a des sourates entières qui sont consacrées à ce sujet. Elles sont abondantes. Elles parlent des demeures éternelles, en lien avec le jugement dernier, en lien avec les récompenses à recevoir dans l'islam. Le thème du jugement de Dieu dans la théologie musulmane est très présent. Il fait partie des points des doctrines les plus importants auxquels de nombreux textes sacrés, c'est-à-dire le Coran, mais aussi la tradition, sont consacrés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous laisser quelques références bibliographiques. Je ne sais pas. Voilà, donc il y a trois ouvrages qui sont plus théologie islamique. Ça a été écrit par le père de l'actuel recteur de la mosquée de Paris, un certain Boubacar. Si l'actuel recteur de la mosquée de Paris n'est pas vraiment un grand théologien, son père, par contre, l'était. Il était un diplomate, mais aussi un grand théologien. Il a écrit Théologie islamique, un traité de théologie islamique qui est vraiment très bien fait. L'avantage, c'est que ça est écrit par un musulman et il explique en vue, en direction des chrétiens. Donc, il fait l'effort aussi de l'expliquer pour des chrétiens. Sinon, un second qui est écrit par un universitaire, Roger Caratini. Là, il parle de l'islam, il fait une présentation, mais universitaire de l'islam, donc avec parfois des critiques et des réserves qu'un historien peut avoir. Et enfin, un dictionnaire du Coran, si je dois faire un parallèle, c'est un peu l'équivalent de dictionnaire de la Bible, hein, édité par Excelsis. Vous avez sur chaque sujet important un article écrit par souvent des profs universitaires, mais des spécialistes du sujet. C'est vraiment des ouvrages très intéressants si vous voulez investir un peu d'argent dans votre bibliothèque. Sinon, il y a des ouvrages écrits plus par des chrétiens évangéliques. Il y a trois. Bon, le premier est vraiment très très court, à vrai dire. On l'a écrit avec Jamil Chabou, pour un peu les paresseux, mais comme je sais qu'il n'y a pas de paresseux parmi nous, donc inutile, c'est un regard rapide sur l'islam. Sinon, le deuxième, c'est la foi à l'épreuve de Shawkat Mukhari, qui reste toujours une référence, ou encore l'ouvrage de Shair Maha, qui vient d'être aussi traduit en français, qui est un grand ouvrage. Première chose donc que j'aimerais mentionner, évoquer avec vous, avant tout, c'est la vision du paradis dans l'islam. Quelle est la vision du paradis dans l'islam? Les textes coraniques abondent de descriptions des beautés, des joies qui attendent ceux et celles qui se tournent vers l'islam et qui arrivent à entrer au paradis. D'abord, le vocabulaire qui est utilisé, il y a trois termes qui sont employés. Le premier, c'est le terme de Jannah, Jannah en pluriel, et la racine de ce mot veut dire ce qui est couvert. En l'occurrence, ce qui renvoie à ce qui est couvert dans le jardin, la verdure qui couvre le jardin. Ce terme, c'est le terme le plus utilisé dans le Coran pour parler du paradis au ciel. Et il faut noter que souvent, il est utilisé pour parler du paradis au ciel, mais il est aussi employé une fois ou l'autre, rarement, mais quand même pour parler des jardins aussi terrestres, c'est le cas du Coran 36 par exemple. Deuxième terme qui est employé, c'est le terme de Eden, Et ce terme revient à 11 reprises dans le Coran. Et systématiquement, il est accompagné par le jardin, donc le jardin d'Éden. Et il fait allusion, donc, le paradis promis aux croyants comme étant le jardin d'Éden d'autrefois. C'est le Coran 9, verset 72, par exemple. Le terme Éden porte aussi une notion de jouissance en arabe. D'où le fait, d'ailleurs, que le jardin d'Éden est appelé le jardin des délices à plusieurs reprises dans le Coran. C'est le Coran 5, 65, le Coran 37, le Coran, etc. Un troisième terme est employé pour désigner aussi le paradis, même si ce n'est pas souvent, mais quand même, c'est le terme de Ferdows. Ce terme signifie à l'origine, c'est l'enclos de la chasse royale, d'où ce terme est passé par le grec pour un terme qui va donner par la suite ce que nous utilisons pour dire le paradis en français. Donc c'est avec ces trois termes que le paradis est évoqué principalement dans le Coran et dans les hadiths. C'est par ces trois termes. Le Coran parle d'abord du paradis perdu. Le paradis perdu dans le Coran, donc c'est le jardin d'Éden où Adam et Ève ont vécu avant d'en être expulsés. Le jardin d'Éden dans le Coran n'est pas un jardin terrestre, comme la Bible le laisse entendre, mais c'est un jardin qui se situe en hauteur, et en hauteur par rapport à la réalité terrestre. C'est le Coran 2, le Coran 7, le Coran 20. Et la sourate 7, verset 24, parle clairement du fait que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, sont descendus sur la terre. Cela laisse entendre donc clairement que le jardin d'Éden, dans lequel étaient Adam et Ève, ne se situait pas sur la terre, mais se trouvait en hauteur. Le jardin d'Éden est décrit dans le Coran 20, notamment, comme un lieu où il n'y a pas de faim, ni soif, ni honte, ni souffrance, ni chaleur de soleil, etc. Le Coran parle également du paradis à venir. Le paradis à venir est présenté dans le Coran de plusieurs manières. Premièrement, le paradis à venir est présenté comme un lieu à plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est un lieu situé dans les hauteurs, le Coran 69, le Coran 88, ce qui implique que le paradis, dans la conception musulmane, n'est pas une réalité terrestre, comme le laissent entendre certains expressions du Nouveau Testament sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Donc, ça sera dans la conception musulmane, c'est une réalité purement céleste, en tous les cas pas terrestre. Ensuite, ce lieu est aussi un lieu aussi vaste que les cieux et la terre. Et enfin, ce lieu est un lieu rempli de salles, et le terme qui est employé, c'est vraiment en arabe, renvoie plutôt chambre, demeure, ce qui ne va pas sans rappeler les plusieurs demeures dont parle dans la maison du Père, dont parle Jésus à ses disciples. Deuxièmement, le paradis est présenté dans le Coran comme un jardin à multiples facettes. D'abord, c'est un jardin entouré de murailles dont l'intérieur est marqué par la miséricorde et l'extérieur par le jugement. Ces murailles ont des portes couvertes, laissant les fidèles, qui sont accompagnés par des anges, d'entrer au paradis. Ensuite, ce jardin est irrigué par des ruisseaux. Quatre fleuves sont mentionnés dans le Coran d'une manière explicite, au Coran 47 précisément. Il y a des fleuves dont l'eau est incorruptible, des fleuves du lait au goût inaltérable, des fleuves du vin délicieux et des fleuves du miel pur. Enfin, ce jardin est ombré et fleuri de bien des manières, donc c'est un endroit agréable. Troisièmement, le paradis est présenté comme une habitation des créatures exceptionnelles. Il y a d'abord, bien entendu, les anges. Il y a d'abord la présence des anges au paradis qui sont au service de Dieu comme au service des fidèles. Ensuite, il y a les femmes exceptionnelles que j'évoquais en introduction à plusieurs reprises dans le Coran. C'est le Coran 2, le Coran 3, le Coran 4. Ces femmes sont appelées les houri, donc littéralement épouses pures. Et ce terme revient à quatre reprises dans le Coran 44, 56, 55 et 55 aussi. Il revient à deux reprises dans la sourate 55. Ces femmes sont des vierges et exemptes de toute souillure. Et du point de vue d'apparence, elles ont toutes le même et meilleur âge, dans lequel donc on peut être beau, et c'est le Coran 38 qui le précise. Et aussi le Coran, puisqu'il aime donner des détails, parle aussi que ces femmes ont des yeux exceptionnels. Le terme qui est employé, c'est dans le Coran 37, versets 48 et 49. Chaque fidèle musulman aura droit à 72 donc de ces femmes, d'après 72, oui, pour vous qui parlez bien le français, excusez-moi, 72, c'est ça? Excusez-moi. Donc, d'après un hadith qui a été rapporté par l'un des compagnons de Mohammed. Les fidèles hommes ne seront pas les seuls à être récompensés par la présence d'êtres exceptionnels de sexe opposé. Les croyantes aussi musulmanes auront droit à la présence de jeunes garçons exceptionnels au paradis. C'est dit clairement dans le Coran 52, verset 24. À côté des anges, des houris, il y a aussi des beaux jeunes garçons. Le Coran 56, versets 17 et 18. Là, je vous donne les références précises, sinon je risque d'avoir des difficultés. Donc, Coran 56, 17 et 18, il est dit clairement qu'il y aura des jeunes garçons qui seront présents, donc des hommes de sexe masculin, présents au paradis et qui seront au service des habitants du paradis. Donc le Coran met en parallèle très clairement les jeunes garçons avec les houris, les femmes houris, et en les qualifiant toutes les deux des perles détachées, c'est-à-dire des perles pures, qui ne sont pas marquées. Néanmoins, le Coran ne va pas jusqu'à affirmer que ces jeunes garçons ou ces jeunes gens seront des époux pour les croyantes musulmanes, comme il le fait pour les houris, pour les femmes, à l'égard des fidèles, des croyants musulmans. Quatrièmement et dernièrement, le Coran se présente le paradis comme un festin pour les croyants. Et lors de ce festin, il y aura des fruits succulents, le Coran 2, il y aura des viandes, le Coran 52, des breuvages limpides, le Coran 56, et des vins rares. Ça, c'est le Coran 83. Donc, le paradis, la vision coranique du paradis se résume. Le paradis est un lieu à plusieurs caractéristiques, un jardin à de multiples facettes, une habitation de créatures exceptionnelles et un festin pour les croyants. Après cette présentation sommaire du paradis dans l'islam, il convient à présent d'aborder du comment entrer en paradis dans l'islam, dans le paradis en islam. Quelles sont les bases pour accéder au paradis? C'est la deuxième question à laquelle j'aimerais maintenant tenter de répondre. La voie pour aller au paradis, c'est le jugement. Il faut passer par le jugement pour aller au paradis. De son vivant, Mohammed parle de l'arrivée du jour du jugement comme une réalité imminente, sur le point d'arriver. Cette attente de la fin des temps imminente est palpable dans ce qu'on appelle l'apocalypse coranique. L'apocalypse coranique, ce sont les 33 dernières sourates, ou les 33 derniers chapitres. Ces 33 dernières sourates sont considérées par les chercheurs comme, à vrai dire, le Coran originel, que le reste serait plutôt fabriqué plus tard. Et dont le point caractéristique de ces 33 dernières sourates, elles portent toutes sur l'eschatologie, sur le jugement dernier, sur la fin des temps d'une manière globale, mais sur le jugement dernier d'une manière particulière. Mohammed donc ne connaît pas l'heure de la fin des temps, tout comme Jésus dans l'Évangile, mais il indique à ses compagnons que seul Dieu connaît l'heure et l'heure de jugement, et cette heure de jugement est appelée comme un signe, il est appelé l'heure, Sarah, donc l'heure. Plusieurs textes coraniques évoquent l'approche imminente de cette heure de jugement, et le jour du jugement sera précédé dans le Coran par des signes. Parmi les signes mentionnés dans la théologie musulmane, il y a l'apparition d'un animal sorti de la terre qui reproche aux hommes leur incrédulité, et qui perce aussi les murs par éruption des peuples Gog et Magog, les peuples de Gog et Magog qui vont se révéler aussi, qui vont revenir. D'autres signes d'ordre cosmique vont poursuivre aussi, vont se produire aussi, pardon, avant l'arrivée de ce jour. Et la tradition musulmane indique qu'à la fin des temps, Jésus reviendra avec le 12e imam. Vous savez que dans la théologie musulmane, il y a deux grandes familles, les sunnites et les chiites, les deux familles attendent ce fameux 12e imam qu'on appelle le Mahdi al-Qa'im, le ressuscité ou le résurrecteur, si vous préférez, qui reviendra, et à côté de lui, donc Jésus reviendra aussi avec lui pour juger, pour le jour de jugement. Cette venue du Christ sera précédée aussi par celle de l'Antéchrist, dont il est question dans le Coran. Après tous ces signes, l'heure arrive, c'est le Coran 30, 27, l'heure du jugement sonnera et tous les hommes ressusciteront, sortent de leur tombe et sont ramenés auprès de Dieu pour lui rendre des comptes. La sourate 99 est consacrée entièrement à l'avènement de ce jour. Ce jour-là, chaque être humain rendra des comptes de ses actes devant Dieu. Et Dieu les jugera avec justice, comme le souligne le texte, comme le souligne le texte, le Coran 99. Les anges viennent apporter, lors de ce jour de jugement, les anges viennent apporter le livre où sont écrites toutes les œuvres des hommes, bonnes ou mauvaises. Et là, je cite le Coran 23, « Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. » Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Une tradition rapporte que tous les êtres humains passeront par le pont de Sira. Le pont de Sira est décrit comme une réalité, comme un pont fin, aussi fin comme un cheveu, ou bien aussi fin comme le sabre dans le Coran. Ceux dont les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises passeront facilement ce pont de Sira, mais ceux dont les mauvaises œuvres l'emportent sur les bonnes trébucheront et tomberont dans la géhenne. Mais la géhenne, dans la conception musulmane, la géhenne, c'est la partie supérieure de l'enfer. Donc une partie de laquelle qu'on peut quitter, rejoindre le paradis. Je reviendrai tout à l'heure. Mais la géhenne, c'est la partie supérieure de l'enfer, ce qu'il faut retenir pour le moment. La tradition indique qu'au début de ce pont, il y a l'ange Michael qui se tient debout sur le pont de Sirat et Gabriel, donc laisse par la suite, interroge les passagers, tous les passagers. Et l'ange Gabriel, dans la tradition musulmane, c'est lui aussi qui a annoncé à Marie la naissance de Jésus. Donc il joue un rôle fondamental à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, l'ange Gabriel est là. Et donc, par la suite, il laissera la place à deux autres anges qui vont continuer l'interrogatoire. Donc, la voix, c'est le jugement. Une règle, seuls les mérites comptent. Cette règle coranique est indiqué d'une manière très claire dans le Coran 99, versets 7 et 8, je vous lis, « Qui aura accompli le point d'un atome de bien le verra, et qui aura accompli le point d'un atome de mal le verra. » Les mérites seuls comptent face au jugement dernier dans l'islam. C'est la première chose que le Coran, que la tradition musulmane, que la théologie musulmane souligne d'une manière très forte. Cette règle n'attend pas, à vrai dire, le jour de jugement pour s'appliquer, mais elle commence déjà à être mise en application dès la tombe, dès le jour de l'enterrement de la personne. D'après la tradition musulmane, tout musulman qui meurt rencontre déjà dans sa tombe l'archange Azraël, qui est appelé aussi l'ange de la mort. Et il le rencontre dès la dernière personne qui quitte le cimetière. Il y a le jugement tombal qui commence d'abord. Cet archange laissera ensuite l'interrogatoire à Nakir ul-Munkur et tous les musulmans passeront par ce jugement tombal, y compris les prophètes et les martyrs qui, eux, ont un statut particulier sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais ont un statut particulier. Même eux passeront devant ce jugement tombal. Après ce jugement tombal, les prophètes, les martyrs entreront directement au paradis. Le jour du jugement, ils reviendront, mais ils ne reviendront pas pour être jugés, mais ils reviendront pour assister au jugement. Donc après ce jugement tombal, les prophètes et les martyrs entreront directement au paradis. Quant aux autres croyants, attendent le jugement dans leur tombe, espèrent dans l'intercession de Mohammed auprès de Dieu. Même le prophète n'échappe pas à ce jugement tombal, d'après l'un des compagnons de Mohammed. Mohammed dit dans Sahih, vous savez que dans l'islam il y a le Coran comme source scripturaire, mais il y a aussi les hadiths qui sont des sources scripturaires sur lesquelles se base la doctrine musulmane. Et dans ces hadiths, la tradition, ce qu'on appelle la tradition, Mohammed dit « Je me réfugie auprès de toi contre la séduction de la mort et la vie, contre le châtiment du tombeau. » Et dans ce hadith, dans cette tradition, on voit quand même l'expression d'une petite appréhension même du prophète lui-même face au jugement, face au châtiment du tombeau. Après ce jugement tombeau, les hommes seront plongés dans un sommeil profond en attendant le jour de jugement, le jour de la résurrection. Ce sommeil paraîtra très court d'après plusieurs textes coraniques qui sont là aussi pour rassurer, visant à rassurer et apaiser le cœur des croyants. Comme déjà souligné, je vous ai dit, le prophète et les martyrs ne connaîtront pas ce sommeil mais entreront directement dans le paradis suite au jugement tombal. Il faut souligner que le jugement tombal indique, d'après un certain nombre de traditions musulmanes, que les personnes, déjà, le jugement tombal donne l'orientation de la personne, si elle va en enfer ou elle va au paradis. Donc le jugement tombal donne une indication à la personne du sort qui l'attend pour toute l'éternité. Au jour du jugement, la règle que j'ai énoncée, quiconque ou qui accomplira le poids d'un atome de bien le verra, qui accomplira le poids d'un atome de mal le verra, c'est cette règle aussi qui sera respectée. Sur la base de cette règle, deux groupes se distingueront très clairement. D'abord, ceux qui vont entrer en paradis, des personnes dont les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises, entreront automatiquement au paradis. C'est ce qui est annoncé à plusieurs reprises dans des textes coraniques, notamment dans la sourate 39, les versets 73 et 74. Et en plus de ces personnes dont les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises, il y a aussi les deux catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure, les prophètes et les martyrs. Les prophètes, parce qu'ils ont été choisis par Dieu pour délivrer sa parole, pour transmettre sa parole, pour transmettre son message. Quant aux martyrs, c'est parce qu'ils ont engagé leur bien et leur personne dans le combat pour Dieu et ils ont trouvé la mort lors du combat pour Dieu. En effet, l'application rigoureuse des cinq piliers, des cinq fondements de la foi musulmane ne permettent pas d'avoir accès, d'avoir l'assurance de salut. Le seul endroit où on peut être sûr de son salut, c'est lorsqu'on meurt en martyr. La question qui se pose à ce sujet sur le martyr et dans la théologie musulmane est de voir qu'est-ce qu'on entend par le martyr. Et là, vous avez deux conceptions théologiques qui s'affrontent. Vous avez la première qui est une conception classique de la majorité des musulmans, en tout cas des trois grandes écoles musulmanes, premières écoles musulmanes, il y en a quatre, des trois premières qui consistent à dire que le martyr qui réglemente vraiment strictement ce statut de martyr et qui n'a rien à voir avec les djihadistes aujourd'hui. Et vous avez par contre une lecture salafiste, wahhabite et djihadiste de la lecture du martyr qui considère que le martyr c'est quiconque meurt dans le djihad tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais comme ce n'est pas notre sujet, j'arrête là ce propos. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui meurt dans le martyr va aller au paradis directement aux côtés des prophètes. Et ça, c'est tout le monde est d'accord. C'est le statut du martyr qui pose problème. Donc, ces trois catégories de personnes, les personnes dont les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises, les prophètes et les martyrs iront directement au paradis. Face à ceux qui entrent au paradis, il y a donc ceux qui vont dont les mauvaises œuvres l'emportent sur les bonnes. Ceux-là seront jetés en enfer et personne ne pourra leur venir en aide. Ils seront saisis d'un désespoir profond, précise le Coran 30, verset 12. Le jugement est individuel, mais néanmoins, certains groupes religieux ou peuples sont condamnés aussi autant que groupes à cause de leurs péchés impardonnables commis ensemble. Sur cette base sont condamnés tous les polythéistes, les idolâtres, qui vont directement en enfer, d'après la théologie musulmane, Coran 16 par exemple, 28. Les chrétiens et les juifs, initialement, n'étaient pas concernés par ce péché impardonnable. C'est le péché de l'associationnisme, ce qu'on appelle ishrak, l'associationnisme, on associe une divinité à Dieu. Initialement, les chrétiens et les juifs n'étaient pas considérés par ce texte, par ce péché. Mais c'est dans le Coran 7 que la plupart des spécialistes disent la sourate 7 qui serait venue à la fin du ministère de Mohammed, lorsque Mohammed, au retour à la Mecque, les Juifs et les chrétiens ont refusé d'accepter ou d'accorder une autorité scripturaire à son message. Et à ce moment-là, il a donné donc cette sourate 9, et en particulier au verset 30, il accuse les chrétiens et les juifs d'associationnisme. Les juifs, il dit, les juifs disent que Ouzaïa, Esdras, est fils d'Allah, et les chrétiens disent Jésus est fils d'Allah, que Dieu les anéantisse, etc. Et à partir de là, donc, ils sont accusés d'associationnisme. Donc, si on suit la logique, les juifs et les chrétiens aussi seront condamnés globalement lors du jugement dernier s'ils n'écoutent pas la prédication de Jésus au retour du dernier jour. Lorsque Jésus reviendra au dernier jour dans la conception musulmane, il ne faut pas vous embrouiller, mais là je vous parle dans la conception musulmane. Hein. Donc lors du retour de Jésus, pour les musulmans, Jésus appellera à la conversion à l'islam. Il appellera les chrétiens à se tourner vers l'islam. Donc si jamais les chrétiens qui refuseront de se convertir, et en particulier sur la conception de Dieu unitaire et Dieu trinitaire, donc de revenir à un Dieu unitaire, eh bien, ils auront un jugement collectif et ils seront donc sous le jugement, ce jugement collectif, ils iront directement en enfer. L'enfer sera surveillé par les anges, dit le Coran 74, pour ne permettre à personne d'en sortir. Au jugement tombal comme au jour de jugement dernier, ultime, donc seule une règle est en vigueur, doit être respectée. C'est l'enseignement principal du Coran et de la tradition musulmane. Les mérites seuls comptent face au jugement de Dieu. À côté de cette règle, il y a une exception. C'est la troisième chose que j'aimerais aborder sur cette question. Il y a une exception. La grâce est accordée à ceux qui sont proches du paradis. L'une des expressions qui revient systématiquement dans la théologie musulmane, dans le Coran, Dieu est miséricordieux et très miséricordieux. Plusieurs sourates commencent, s'ouvrent par cette expression. La grâce, la miséricorde de Dieu intervient au jour de jugement d'après la théologie musulmane sous forme d'une faveur que Dieu accorde à ceux à qui il manque peu de choses pour être au paradis, pour être sauvés. Il y a deux catégories de personnes considérées comme proches du paradis. D'abord, ceux dont les œuvres, les bonnes œuvres, égalent les mauvaises. Ces personnes-là se retrouveraient, d'après certains commentateurs de la théologie musulmane, et en s'appuyant sur la sourate 7, le verset 46, sur un lieu qui s'appelle Araf. Mais lorsqu'on regarde, ce lieu est un lieu intermédiaire entre le paradis et l'enfer, mais il n'est pas déterminé d'une manière très claire dans la théologie musulmane. Il y a une seconde catégorie de personnes seront aussi au bénéfice de cette forme de grâce de Dieu face au jugement dernier, sont les personnes dont les mauvaises œuvres l'emportent de peu sur les bonnes œuvres. Il leur manque peu de choses pour dépasser la moyenne exigée pour être sauvés. Donc après le jugement, ces personnes tombent dans la géhenne dont je parlais tout à l'heure, la géhenne qui est cette première partie, la partie superficielle ou supérieure de l'enfer dans un premier temps. Dans la conception musulmane, donc une fois la personne est dans cette phase, elle n'est pas encore dans l'enfer profond et définitif, mais elle est dans un lieu où elle peut quitter cet enfer. Les habitants de la première couche de l'enfer, donc la géhenne, ont la possibilité de passer au paradis sous certaines conditions. Et les personnes dont les mauvaises œuvres l'emportent de peu sur les bonnes, doivent donc rester dans ce lieu et être au bénéfice. Il y a un moyen que Dieu, dans le Coran, a prévu pour sauver, c'est l'intercession, on appelle l'intercession de Dieu ou de Mohammed, je donnerai un mot d'explication, mais je pense qu'on pourrait qualifier d'intercession compensatrice. Prenez le terme compensatrice entre guillemets, parce que je n'ai pas trouvé ce terme ailleurs, c'est juste moi qui l'appelle ainsi. Donc, comment cette grâce, cette miséricorde donc peut se manifester? C'est par le moyen de cette intercession. Par contre, en arabe, elle a un terme technique qu'on appelle shafa, hein, donc en faveur de ces personnes. Cette intercession sert à acquérir les points manquants à la personne pour dépasser de peu la moyenne et aller au paradis. Dans le Coran, donc, c'est Dieu qui est appelé cet intercesseur et c'est lui qui va venir en aide pour ceux qui sont proches du paradis, c'est le Coran 39 par exemple, c'est le Coran 6, le Coran 32. Mais la tradition musulmane finit par dire aussi que Mohammed peut aussi faire cette intercession. Et il se base pour cela sur la sourate 17 où Mohammed est monté dans une forme de voyage mystique au ciel. Mohammed donc serait monté au ciel et aurait fait l'intercession auprès de Dieu pour les musulmans. Et sur cette base-là, les musulmans continuent à dire que Mohammed va intercéder, de la même manière qu'il avait fait autrefois, va continuer à intercéder en faveur des musulmans au jour de jugement. Il faut noter simplement qu'il y a cette intercession, mais il faut savoir que cette intercession est réservée à Dieu pour, en tout cas, certains mu'tazilites, qui sont vraiment un peu les intellectuels de la théologie musulmane. Pour eux, Mohammed ne peut pas faire cela, c'est réservé uniquement à Dieu, parce que rejeter, dire que Mohammed peut intercéder en faveur de Dieu, de ces personnes, c'est comme remettre en cause le jugement de Dieu lui-même. Ce qui est sûr, c'est que cette intercession, après le jugement, interviendra en faveur des personnes qui sont vraiment proches. Donc, dans la conception musulmane, si je dois maintenant utiliser un peu des chiffres qu'on peut comprendre, mais pour schématiser, ce n'est jamais pour, j'espère pas pour caricaturer, s'il vous faut 10,001 ou 0,1 pour aller au paradis, donc ceux qui ont à partir de 10,01 ou 0,01, etc., donc vont au paradis, si vous avez 10, entre 9 et 10, et là vous irez dans ce fameux GL. Et donc il est l'intercession de Dieu ou de Mohammed, l'intercession compensatrice, cette intercession vous permettra, le temps qu'il faut, de gagner le point qui manque pour avoir toujours la moyenne et aller au paradis. Donc vous voyez, la moyenne est toujours exigée, vous n'avez pas trop le choix, donc il faut avoir la moyenne pour aller au paradis. Dans la théologie musulmane, donc, il y a la place pour la grâce, mais c'est une grâce particulière, en tout cas, qui est une grâce un peu différente de celle qu'on entend dans l'Évangile. Mais en même temps, il faut dire que la théologie musulmane met l'accent davantage sur la responsabilité individuelle. Elle veut responsabiliser les croyants face à leurs décisions et sebas et leur dire « il faut gagner votre salut, c'est les mérites ». Et l'autre sujet qui est mis en valeur dans ce débat, c'est la notion de la justice de Dieu. Il faut que la justice de Dieu soit satisfaite. Troisième question et la dernière à laquelle j'aimerais répondre à présent, c'est quelle est la comparaison à faire entre la foi chrétienne et la théologie musulmane sur ce sujet. Je vais le faire rapidement. Le texte de l'apôtre Paul que nous avons lu tout au début permet d'esquisser justement quelques points de comparaison. J'aimerais souligner, à vrai dire, deux choses. La première chose que je veux souligner, c'est la différence fondamentale entre la théologie musulmane et la théologie chrétienne sur la place de la grâce dans le salut au jour de jugement. Dans la foi chrétienne, même la personne dans l'œuvre sera consumée, dont il ne restera absolument rien, sera quand même sauvée. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 15 de chapitre 3 de 1 Corinthiens. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subirait la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et si Paul peut affirmer peut faire une telle déclaration avec une telle force, c'est parce que le salut dans la foi chrétienne est accordé uniquement sur la base de l'œuvre objective de Jésus-Christ à la croix. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, écrit l'apôtre Paul dans l'épître Romains, chapitre 5. L'Évangile considère que tous les hommes donc sont pécheurs, condamnés à la mort, et le prophète Isaïe dit même « Nous sommes tous comme des impurs, toute notre justice comme un vêtement souillé ». La justice de croyants est même qualifiée de vêtement souillé face à la justice de Dieu. Il n'y a point donc de juste, pas même un seul, écrit l'apôtre Paul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, Romains 3. Tous sont péchés privés de la présence de Dieu. toujours dans le chapitre 3. Donc l'être humain est gravement marqué par le péché. Je pense ce matin, ça nous a été rappelé, inutile poursuivre. Et l'apôtre Paul fait valoir dans Éphésiens 2 en particulier la grâce et la grâce seule. À plusieurs reprises, nous sommes sauvés par la grâce. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. Dieu ne nous a pas sauvés en vertu des bonnes œuvres que nous allions accomplir. C'est dans l'épître de Timothée. Il lui dit, Dieu ne nous a pas sauvés, il nous a adressé un saint appel, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan, de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Donc si nous sommes sauvés par la grâce. Dans la foi musulmane, les œuvres d'abord, c'est les œuvres d'abord comme on vient de le voir. Ce sont les œuvres qui déterminent d'abord la personne, si la personne sera sauvée ou non. C'est en fonction de ces œuvres que le sort de croyant est déterminé pour toute l'éternité. Certes, il y a la place pour l'intercession possible, toujours en vue d'obtenir quand même les points manquants, en vue donc d'arriver à un certain statut, à un certain nombre de points acquis pour pouvoir entrer au paradis. La notion donc de la grâce telle qu'elle est présentée dans l'Évangile est complètement différente de celle que nous trouvons dans le Coran. Mais en même temps, dire qu'il n'y a pas de forme de grâce dans le Coran serait pas tout à fait juste, à mon sens, lorsqu'on entre dans la logique des œuvres, du salut par les œuvres, et dans la logique musulmane de ce raisonnement. Sur la notion de la grâce, donc, il y a un véritable fossé qui sépare les deux conceptions de la théologie musulmane et la théologie chrétienne. Deuxième chose que j'aimerais souligner dans cette comparaison qui reste sommaire entre ces deux théologies, touche au mérite au jour de jugement. Pour la foi musulmane, les mérites sont une juste rétribution divine. Il ne pourrait pas être autrement. C'est tout ce que je viens d'évoquer, c'est la justice de Dieu qui est en œuvre. On ne peut pas accorder le salut à quelqu'un qui n'a rien fait, en gros. Il faut qu'il le gagne. Dans nos milieux chrétiens, en particulier protestants et évangéliques, nous mettons l'accent sur la grâce, comme je viens de le faire, et nous avons tout à fait raison de le faire, mais en le faisant, parfois, nous oublions la notion des mérites. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Et afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et au chapitre 3, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc certains commentateurs ont proposé de comprendre récompense, salaire, etc. Mais cela ne change rien sur le fondement, sur le fait de dire qu'il y a une rétribution, une juste rétribution. Un effort consenti. Il y a plusieurs manières de bâtir dans ce texte sur le fondement posé qui est Jésus-Christ, mentionné par l'apôtre Paul. Bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi du bois, du foie, du chanvre. Et dans ces deux séries, il y a dans tous ces matériaux, il y a deux séries de matériaux. Il y a la première qui résiste au temps et au feu, c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais il y a une autre série qui ne résiste ni au temps ni au feu, comme le bois, le foie et le chaume. Et ceux qui construisent avec des matériaux résistants se verront récompensés, d'après ce que Paul dit ici, quant à ceux qui construisent avec des matériaux non résistants, ne verront pas. Leur œuvre sera consumée et ils n'auront aucune récompense. De quelle récompense s'agit-il? L'apôtre Paul ne le précise pas. S'agit-il simplement d'une profonde satisfaction de voir son ministère apporter du fruit, de voir son œuvre porter du fruit, de voir sa consécration porter du fruit? Pourquoi pas? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Paul ne le précise pas. Par contre, Paul précise très clairement que cette récompense ne touchera pas de près ou de loin à la question de salut. Cela ne concerne pas le salut. Le salut nous est acquis par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et nous n'avons absolument rien à apporter et nous n'avons rien à faire. Nous l'avons reçu et c'est une grâce. Mais bien sûr, une fois que nous l'avons reçu, ce salut aussi nous est appliqué par l'Esprit qui nous transforme, qui nous façonne en vue de porter les fruits de ce salut. Donc, dans cette comparaison, pour la théologie musulmane, on est sauvé par les œuvres, récompensé pour les œuvres. Pour la théologie chrétienne, on est sauvé par la foi, mais récompensé pour les œuvres. Pour conclure, j'aimerais mentionner deux réflexions que cette étude suscite en moi, et je terminerai par là. La première, c'est la valeur de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ça a été dit aussi ce matin, inutile de continuer de continuer à disserter davantage, mais nous parlons tellement de la grâce que parfois nous perdons vraiment le sens de la grâce, ou nous nous réfugions dans notre conception, dans les conceptions acquises de la grâce, et nous cédons facilement à toute forme de paresse, en particulier spirituelle, mais aussi intellectuelle, pour ne pas pousser à comprendre ou à entendre d'une manière nouvelle la grâce que j'entends jour après jour. Je pense sur ce point, il y a un effort à faire, et je pense que nos amis musulmans peuvent nous donner une belle leçon à cet égard, pour que nous puissions apprécier, non pas sa juste valeur, ce serait impossible, il nous a été rappelé ce matin que ce sera au ciel, mais apprécier de plus en plus au moins la grâce qui nous a été offerte en Jésus-Christ. La seconde réflexion que cette étude suscite en moi porte sur comment la manière de recevoir la grâce de Dieu. L'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous permet, entre autres, de produire justement le fruit de l'Esprit, le fruit de la repentance, mener une vie remplie de l'Esprit et qui donne gloire à notre Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Tite, et un passage qui a été rappelé, mais que je ne m'empêche pas de vous rappeler, la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de Dieu, du grand Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé par les bonnes œuvres. Le but de la grâce de Dieu et de nous conduire vers une vie de sanctification, de consécration, une vie où nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. Nous avons bien raison de parler de la grâce seule, mais nous ne devons pas oublier les œuvres qui sont le fruit de cette grâce. Nous devons laisser la grâce produire en nous les dispositions du cœur nécessaires pour une vie remplie de bonnes œuvres, ce qui conduira les hommes autour de nous, y compris les musulmans, à rendre gloire à notre Père céleste pour ses bonnes œuvres. La grâce telle qu'elle est révélée dans l'Évangile se distingue de toutes les autres grâces, de toutes les autres miséricordes ou faveurs qu'on trouve ailleurs ou dans l'islam. Mais nous devons laisser cette grâce vraiment se manifester concrètement, profondément et jour après jour dans notre vie. Merci pour votre attention. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions, des remarques. Oui.
Oui.
D'accord. Donc il faut négocier avec Étienne qu'il y aura un deuxième atelier. Oui. Très franchement, il n'y a pas de recette. Mais si vous voulez, comme n'importe quelle autre discussion, l'exemple que l'apôtre Paul nous laisse dans Actes 17, c'est de chercher d'abord d'établir des ponts, d'établir d'abord des passerelles. C'est clair que si vous commencez votre discussion en disant que Jésus est fils de Dieu, ben là, c'est clair que vous le faites fuir tout de suite. Je me rappelle une fois, on tenait un stand d'évangélisation avec les GBU à la Cité universitaire à Paris. Il y avait un jeune étudiant qui voulait venir pour la première fois. Je lui ai dit, oui, c'est très bien, hein, on y va. On n'a pas encore installé la table et j'étais en train d'installer les choses. Et lui, il a dit, il y a deux jeunes qui sont arrêtés. Il leur a dit, enfin, Jésus est fils de Dieu. Et vous avez les deux jeunes avaient une réaction très violente. On a failli se faire un peu bastonner. Et après, en discutant un peu avec eux, en fait, il y avait un, c'est un juif, et l'autre, c'est un musulman. Donc, il a fallu prendre de temps pour leur expliquer qu'est-ce qu'on entend par Jésus, fils de Dieu. Donc, il a fallu un peu de temps. Donc, mais je ne pense pas qu'il faille commencer par ce genre de questions. Mais par contre, moi, je pense qu'il faut d'abord comprendre, prendre le temps de lire le Coran, de lire quelques ouvrages. Je pense qu'on a l'ouvrage de Shaya Mahar ou de Shawkat Mukari. Franchement, c'est de très bons ouvrages qui peuvent établir vraiment de bons liens, de belles passerelles. Une fois qu'on a compris un peu ce qu'ils pensent, etc., et là, on peut établir des passerelles, et même lorsqu'on parlera avec eux sur des sujets, y compris Dieu, la conception de Dieu, c'est quoi la prophétie et tout, ça va les rassurer. Mais une fois qu'on les a rejoints, là où ils sont,
comme l'apôtre Paul le fait à Athènes. Et après, il faut qu'on soit en mesure de les inviter à faire un pas vers l'évangile. Et ce qui est frappant dans Acte 17, Paul, par exemple, n'a fait aucune concession. Il a parlé de la résurrection et pourtant il savait que c'est ce thème-là qui va mettre la pagaille, la résurrection aux Athéniens qui ne croyaient pas du tout à cause de leurs philosophes, etc. Donc, mais l'apôtre Paul a dit aussi la vérité évangélique. Donc après, il arrivera un jour, oui, il faut parler de Jésus comme fils de Dieu, de Jésus comme l'unique avec sa double nature, parce que c'est ce Jésus-là de l'évangile qui sauve. Il n'y a pas d'autre. Jésus est présenté aussi dans le Coran d'une manière extraordinaire, bien meilleure que celle de Mohammed, que de tous les autres prophètes. Mais le Jésus coranique ne pourra jamais sauver, parce qu'il n'a pas cette double nature. Il faut un jour arriver à dire cela, mais je ne pense pas qu'il faille commencer par là. Il faut d'abord commencer par d'autres sujets. Oui, c'est repris, je ne me rappelle plus, la sourate qui retrace, je crois que c'est la septième, qui retrace un peu, c'est presque un peu la chute, sauf qu'elle n'est pas considérée comme la chute. Ils reprennent les éléments de Genèse 3, Adam a écouté Satan sous forme de serpent et tout. Mais ce que le Coran dit juste avant, il dit le fait que Satan, c'est un ange déchu, il parle de la chute de Satan. Et la chute de Satan, il a refusé de se prosterner devant Adam, devant la créature de Dieu, par orgueil. Et donc lui a fait sa chute comme ça, et après il a séduit Adam et Ève, à peu près ce qu'on retrouve dans la Genèse. Ce sont les mêmes éléments qui sont repris, sauf que, pour eux, ce n'est pas le péché originel. Donc, Adam pouvait refuser, etc. Donc, à partir de là, n'implique pas que tous les êtres humains sont devenus pécheurs. Ça implique simplement que le péché est entré, ils sont chassés, et que les êtres humains deviennent pécheurs à la naissance. C'est à la naissance, David dit, je suis conçu dans le péché, donc dès la conception, mais dans la conception musulmane, dès la conception de l'être humain, mais dans la conception musulmane, là par contre, c'est à la naissance, c'est là où les musulmans considèrent dans la théologie musulmane, c'est un hadith, hein, c'est de la tradition, que le premier cri de l'enfant, donc c'est un cri sous l'effet de toucher de Satan. Tous les êtres humains sont touchés par le toucher de Satan, excepté trois personnes, Jésus bien sûr, Marie, sa mère, et Jean-Baptiste. Voilà. Non, c'est un pécheur, Mohamed. Non, c'est le Coran qui le dit. Le Coran 80 dit que Mohamed a péché. Hein, donc il dit que Mohamed, il y a eu toute une histoire. Un pauvre qui est venu le voir en disant, c'est un musulman. Et Mohamed, il était en affaire avec un riche, qui n'était pas musulman d'ailleurs. Et apparemment, ce musulman, il est venu pour se sanctifier, pour se consacrer, se sanctifier auprès de Mohamed. Et Mohamed l'a ignoré. Et donc, et vous avez là le texte du Coran qui est descendu, parce qu'on parle de descente, hein, de texte du Coran, donc révélé, l'ange Gabriel qui lui dit, comment se fait-il, on t'a envoyé quelqu'un qui est venu pour se sanctifier, et toi tu as fait du favoritisme. Et au verset 11 du Coran 80, il dit clairement, n'agis plus de cette manière, et toute la suite de la sourate traite de Dieu qui ne fait pas de favoritisme, contrairement au prophète qui vient de faire du favoritisme. Les musulmans ne présentent pas, oui, mais pas le grand prophète, le dernier prophète pour les musulmans. Le dernier prophète, mais les musulmans ne prétendent pas du tout que Mohammed sauve quiconque. Mohammed ne sauve personne. Mohammed, c'est le dernier prophète que Dieu a utilisé d'après la conception musulmane et qui a laissé un message de la voix pour le salut des personnes. Et il faut que, voilà, il faut écouter. Donc, c'est pas en lien. Oui? D'accord, allez-y. C'est Étienne qui gère ça, hein. Je ne suis pas responsable. Oui. Oui. La conception du péché ne joue pas une influence dans la question du jugement. Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, compris votre question. Mais en tout cas, pour le péché, dans la conception musulmane, le fait que l'être humain est né pas pécheur, il devient pécheur. À la naissance, il devient pécheur. C'est Satan qui le touche. Mais après, et c'est en quelque sorte, il est dans un terrain neutre, en quelque sorte. Nous, on dit que le monde est soumis au péché, etc., mais lui serait un peu dans un terrain neutre, sachant que le diable est à l'action, mais Dieu aussi est en action, dans la mesure où il a envoyé les prophètes, y compris Jésus, etc. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé sa parole. Et donc, l'être humain est responsable. Ce qui lui est demandé, ce n'est pas 20 sur 20, il lui est demandé d'avoir 10,01 sur 20. Voilà. Enfin, je schématise un peu, mais c'est pas... Enfin, oui. Oui, tout à fait. C'est clair que les Corans, il faut, je pense qu'il y a deux choses. Donc, le Coran, c'est beaucoup plus fiable parce que les hadiths, ce qui s'est passé, vous savez, la religion musulmane n'a pas vu le jour derrière une bibliothèque où on a commencé à rédiger. Donc, c'est un contexte vraiment de violence et de guerre. Non seulement au lendemain de la mort de Mohammed, vous avez déjà à l'intérieur deux familles musulmanes qui se, ce qu'on va appeler par la suite les sunnites et par la suite les chiites, il y aura des guerres entre eux. Très tôt, et après il y aura des guerres entre les musulmans et les non-musulmans pour les conquêtes musulmanes, et là on est déjà au 7e siècle, et c'est dans ce contexte là qu'il y aura des hadiths. Il est clair qu'on a, découvert énormément de traditions des hadiths qu'on a dit, on dit que ça vient de Mohammed, mais c'est impossible, il a fallu que Mohammed vive, je sais pas, 3-4 vies pour qu'il puisse dire tout cela. Mais ce qui s'est passé concrètement, c'est que pour des raisons politiques, à chaque fois qu'un pouvoir arrive, les Omeyyades par exemple, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont besoin des hadiths pour légitimer leur pouvoir, pour régner sur toute la communauté musulmane, pour exercer leur califat sur la totalité de la communauté musulmane. Et à partir de là, ils ont créé des écoles, ce qu'on appelle des écoles des traditionalistes, c'est-à-dire des théologiens qui passent leur temps à produire des hadiths et à chercher, parce que dans un hadith, vous avez la chaîne de transmetteurs et vous avez le hadith lui-même. Donc ils produisent le hadith et après, ils essayent de trouver la chaîne des transmetteurs, des noms, jusqu'à remonter jusqu'à Mohammed. Et après, on s'est retrouvé à un moment donné avec des hadiths, oui, contradictoires. C'est la raison pour laquelle dans la théologie musulmane, on classifie les hadiths avec les hadiths saints. Mais ça, on dit, c'est presque le Coran. Le Coran lui-même est appelé hadith saint, Qudsi, hadith. Donc un hadith saint. Et après, vous avez un hadith, des hadiths forts, moyens et faibles. Donc ça dépend après comment le hadith est classé. Ça, c'est le premier élément, juste pour clarifier la question des hadiths, le statut des hadiths. Le deuxième élément, je pense à votre réponse, le fait que Mohammed intercède, le fait que lui-même ne sache pas son salut, je vous ai dit, bon, il le dit clairement pour le jugement tombal. Il avait peur, etc. Non, non, c'est un hadith. C'est un hadith que j'avais cité. Et donc là, pour le jugement qui a eu lieu à la tombe, au jour de sa mort, de son enterrement. Au jour de son enterrement, pardon. Donc, mais après, pour le jugement dernier, le Coran, quand même, enseigne, il a plus, mis à part quelques petites références, globalement quand même que les prophètes seront au paradis. C'est le statut prophétique, le statut de prophète donne accès au paradis, y compris pour Adam, et pourtant il a péché. Mais ils ont dit que Adam s'est repenti dans le Coran, il s'est repenti, donc il est sauvé. Et c'est valable pour tous les prophètes et les martyrs. Ce sont les deux statuts qui peuvent être sûrs un peu de leur salut.
Moi, pour le peu de fois où j'ai eu
Pour la grâce, oui, ils ne connaissent pas la grâce selon la définition du Nouveau Testament que Jésus nous a révélée. Pour les bonnes œuvres, ils essayent de faire quand même les bonnes œuvres. Ouais, vous savez, j'ai grandi en Algérie et j'ai grandi dans une famille musulmane. J'ai connu un peu de l'intérieur. Je vous dis, j'ai par exemple, j'ai mon père qui a maintenant un siècle. Il se réveille encore à 5h du matin, à 4h30 pour prier. Il y a peu de chrétiens qui se réveillent à cette heure-ci pour prier. Il prie 5 fois par jour. Et, enfin voilà, donc je ne sais pas. Voilà. Sur la question des bonnes œuvres, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a des leçons à apprendre d'eux. Très franchement, je vous dis en toute humilité, je parle parmi les chrétiens. Je suis chrétien, totalement chrétien. Mais je pense que nous pouvons apprendre quelques petites choses qui peuvent nous aider dans notre vie chrétienne. Mais sur la question de la grâce, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense, et je pense quand on parle avec la grâce, avec les musulmans, vous savez, j'étais aussi pasteur à l'église au Tabernacle, et on faisait un stand d'évangélisation tous les samedis matins. On avait, là dans le 18e arrondissement, une fois il y avait une dame qui, après j'ai découvert qu'elle est musulmane, mais au début je ne savais pas du tout. Et quand on commence à parler, franchement, je commence à lui parler de la grâce. On commence à parler de la grâce, elle me dit, mais vous savez, c'est ça qui m'énerve et c'est ça qui me bloque par rapport à votre discours. Elle me dit, mais moi, elle est où la justice dans tout ça? Et ça m'a vraiment réveillé. Je me dis, c'est vrai que c'est bien de parler de la grâce, mais certains aussi, il faut leur dire que la justice de Dieu n'est pas bafouée par la grâce manifestée en Jésus-Christ, qu'elle est parfaitement respectée. Et parce que personne ne peut respecter la justice de Dieu, que la grâce nous est offerte. Autrement, nous serions tous à l'enfer. Oui. Mais pour eux, la repentance, c'est demander pardon à Dieu. Et les musulmans demandent pardon à Dieu, pas forcément croire en Jésus. Oui. Mais la repentance, il n'y a pas de problème. Les musulmans, même si... Après, peut-être pour être plus complet sur la question des œuvres, je vous ai dit, c'est par la compensation. On fonctionne... pour nous, par exemple, quand on commet quelque chose de grave, ça nous poursuit toute notre vie, même si lorsque le Seigneur nous pardonne, c'est clair, le Seigneur dit, écoutez, j'éloigne de vos péchés, etc., comme l'Orient de l'Occident, tout cela. Mais n'empêche, de temps en temps, il y a des choses quand même... on est triste. N'avoir pas été à la hauteur, enfin, on est triste de n'avoir pas honoré le Seigneur. Mais il faut savoir que dans la conception musulmane, c'est-à-dire si j'ai volé aujourd'hui 100 euros par exemple, il se fait que demain je fasse une œuvre qui peut-être qui va au-delà de 100 euros, elle compense. Voilà, ça je vous donne un port des sommes petites. Mais ce qui est, je vais utiliser un exemple un peu plus dramatique, c'est-à-dire si aujourd'hui je tue quelqu'un et que demain je sauve 2 vies, c'est compensé. Voilà. Donc, je pense que ça, il faut le dire quand on considère les œuvres, alors que dans la théologie chrétienne, je pense dans l'évangile, comme je l'entends, le mal restera toujours mal. Vous savez que souvent dans nos églises, là j'espère ne choquer personne, on dit Dieu change le mal en bien. C'est archi faux, mais je pense que M. Blocher a plus d'autorité pour le dire que moi. Mais je trouve que c'est une bêtise complète. Même si Dieu reste souverain, le mal restera toujours mal. Notre mal restera toujours mal, il ne sera jamais compensé, même si on passe notre temps à faire que de bien. Ah oui, très bien. D'autant plus, c'est vraiment une très bonne question. Est-ce que c'est utile pour quelqu'un musulman qui vit sa vie un peu comme il l'entend jusqu'à vers la fin de sa vie, donc quand il entend la sonnette d'alarme commence un peu à se mettre en route, de se convertir à l'islam, puisqu'il n'aura pas assez de temps pour compenser toutes les mauvaises œuvres commises auparavant. C'est ça ce que vous dites. Et vous savez, dans l'islam un peu populaire, il y avait cette mentalité. Plusieurs fois, on dit aux musulmans, vous vivez votre vie quand vous voulez, quand vous l'entendez, et une fois vous êtes arrivé à la retraite, voire même au-delà, et là, après, vous commencez à devenir, à aller faire le pèlerinage, à faire de l'islam. Non, mais c'est une bonne question. Mais après, il y a parfois des bonnes œuvres qui peuvent, même en peu de temps, on peut faire. C'est la qualité aussi qui compte. C'est au fait, mais c'est sérieux, hein, c'est vraiment la qualité. C'est-à-dire, si vous avez fait des petites bêtises tout au long de votre vie, qu'à la fin de votre vie, vous passez votre temps à faire que de bonnes choses.
Oui.
La question de l'héritage dans l'islam est très très codifiée, donc ça dépend. S'il le donne à une église chrétienne, oui, pourquoi pas. Non, je plaisante. Mais dans la théologie musulmane, c'est que c'est très. On peut pas déshériter comme ça les enfants et faire. Non. Oui, voilà. C'est très compliqué. Je ne peux pas rentrer. Des textes coraniques. Très bien. Donc, la fiabilité des textes coraniques. Très franchement, j'ai pas lu des textes où j'ai pas entendu des grands spécialistes du Coran dire que le Coran est écrit 2 siècles après. C'est la sirat, c'est la marche de Mohammed, la sirat, ce qu'on appelle la biographie authentique ou bien officielle, canonique. Voilà, pardon. La biographie canonique de Mohammed, c'est vrai, est écrite en 834, c'est-à-dire 2 siècles après la mort de Mohammed. Mohammed est mort en 832. Mais ça, c'est la biographie. Qu'est-ce que je dis ? Il est mort en 632 et la biographie officielle, enfin, canonique, est écrite en 832, 2 siècles. 834, pardon. Oh là là, il ne faut pas que je vous perde. Donc, 2 siècles après. Mais pour le Coran, les grands spécialistes, si vous êtes intéressé sur le sujet, vous avez Alfred Louis Despremard, qui a énormément réfléchi, il a passé sa carrière à réfléchir sur ce sujet. Il a écrit plusieurs ouvrages portant sur les premiers manuscrits du Coran. Sinon, plus récemment, c'est François Desroches, qui enseigne au Collège de France. Il a écrit, enfin, sous sa direction, entre autres, le Coran des origines, les origines du Coran. Ou encore Amir Moazi, qui a écrit le Coran parlant, le Coran silencieux. Donc voilà, les grands un peu spécialistes de début de Coran, entre autres, et, mais eux tous s'accordent à dire au moins pour les 33 sourates dont j'ai parlé, les dernières 33 sourates, à considérer que d'abord c'est écrit dans un arabe tardif, un peu l'arabe du 6e, 7e siècle de l'Arabie, s'accordent à dire que, ils accordent en tout cas à dire, il y a question. À se dire si ce n'est pas la version, qu'ils étaient là au temps de Mohammed ou franchement quelques années après. Après, pour le reste, on se pose des questions. Pour le reste, certains spécialistes considèrent que c'est au temps de Muawiya, donc à peu près entre 15 à 20 ans. Le problème, on était à l'époque, c'était vraiment un contexte de guerre. Dans un contexte de guerre, 15 à 20 ans, ça peut faire énorme, c'est-à-dire on peut écrire beaucoup de choses, on peut être obligé de faire plein de choses, plein de modifications. Mais la plupart s'accordent quand même pour dire, certains contestent que ce soit le troisième calife, que cette version soit le fruit du troisième calife, c'est-à-dire qui a régné presque une dizaine d'années après la mort de Mohammed. Mais par contre, ils vont jusqu'à dire peut-être 10 ans après. En tout cas, au temps de Muawiya, on avait déjà la version complète du Coran, cette version-là. Non, mais ça n'a pas attendu 2 siècles.
Quelle place pour le divin dans le paradis historique ? Y a-t-il le Dieu ? Est-ce qu'on ne voit pas ça ?
Tout à fait. On ne peut pas voir Dieu face à face dans la théologie musulmane. On peut pas, mais Dieu, oui, il sera là et il sera partout.
Est-ce qu'il y a une communion avec lui ? Est-ce qu'il y a quelque chose de pleinement, je ne sais pas, satisfaisant ? Enfin, vous voyez, vous voyez,
vous voulez dire une relation personnelle avec ce Dieu ?
Oui,
oui, oui.
Si, il y a...
Oui, oui.
Avec pas mal de
oui.
Oh,
oui.
Oui,
c'est ça. C'est pour ça que je suis un peu surpris par votre réaction, mais c'est pas grave.
La place de Dieu, est-ce qu'il y a un Dieu dans le paradis ?
Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Dieu est présent, franchement. Moi, je pensais que c'est une évidence. Mais après, pour une relation personnelle, ça dépend ce qu'on entend par une relation personnelle. Oui, dans nos milieux chrétiens, on aime dire notre relation avec Dieu, et ça a été rappelé aussi ce matin. On peut dire que nous aimons le Seigneur dans une piété personnelle, dans une relation personnelle, si on ne garde pas son commandement. Celui qui même garde mon commandement, l'évangile de Jean, ce qui a été rappelé ce matin. Donc, il y a un rapport avec quand même le commandement de Dieu, comment on le recevoir. Après, c'est clair que dans la théologie musulmane, il va vous dire, par exemple, la relation avec Dieu, si je veux parler à Dieu, eh ben, je vais faire les prières musulmanes. Et si je veux que Dieu me parle, je lis le Coran. Voilà. C'est beaucoup plus, peut-être, impersonnel que dans la théologie chrétienne, mais je ne pense pas qu'il y ait non plus une différence. Enfin, voilà, je pense qu'il y aura des lieux de rencontre. Oui. Oui, tout à fait. Je parle de ma foi très librement et je vais régulièrement en Algérie ou dans d'autres pays musulmans. Quand on pose la question, je réponds sans aucun problème en public, mais dans le cadre familial et tout, là, nous parlons en toute liberté et je sais. L'exigence pour moi, c'est de dire à chaque fois qu'on m'interroge sur un sujet, c'est de dire pourquoi je considère que la foi chrétienne est plus pertinente. Mais si je n'ai pas pris le temps de réfléchir avant, je ne réponds pas, je leur dis, je reviendrai vers vous et je vous dirai pourquoi. Mais je ne me contente pas de dire parce que l'Évangile a dit ça, ça je le dis dans l'Église, j'étais pasteur, donc je le dis, mais face à mes amis, les membres de ma famille musulmane, je leur dis, j'essaie de montrer par exemple en quoi le Dieu trinitaire est plus pertinent que le Dieu unitaire, par exemple. En quoi le salut, voilà, par la foi et non pas par les œuvres. Oui, tout à fait. Après, si vous voulez, bon, très brièvement, un mot. Juste, pour moi, j'ai grandi dans une famille musulmane et c'est quand j'étais au lycée que j'ai commencé à m'intéresser au Nouveau Testament. Enfin, quelqu'un m'a donné d'abord le film de Jésus en Kabyle et quand je l'ai regardé, c'est parce que c'était en Kabyle, c'était pas par intérêt. Et en regardant, j'ai jamais remis en cause un peu le ce qui est dit dans le film. À la fin, lorsqu'il est arrivé la croix, je dis il y a une contradiction dans ce film, ou bien j'ai pas compris quelque chose de fondamental. Et j'ai, à l'époque, c'est des cassettes, vous savez, vidéo. Hein, bon. Pour les jeunes, j'ai rien dit, mais pour les moins jeunes, donc il fallait rebobiner tout à zéro pour revoir un peu la cassette. Et j'ai regardé la cassette pour la deuxième fois successive. Et à la croix, j'ai même pas continué la suite. Hein, juste à la croix, j'étais bloqué. Je me dis, il y a une contradiction dans ce film, mais ou bien il y a quelque chose de fondamental que je comprenais pas. Bon, j'étais dans le village et je parlais avec un monsieur qui était un peu plus âgé que moi. Par la suite, je découvre qu'il c'est le seul chrétien de toute la région et qu'il commençait à venir et commençait à revenir de temps en temps parce que 10 ans avant, il a été persécuté parce qu'il était devenu chrétien, il a été chassé et il commençait juste à revenir au village un week-end de tous les 3-4 mois. Donc là, je le croise ce jour-là, mais je ne le connaissais pas du tout. Donc je commence à lui parler de ce film. On a discuté, c'était à peu près 16 heures. On a pris un café, on a discuté. Il me parle de Jésus jusqu'à vers, je crois, 23 heures. À la fin, il m'a dit, eh bien, écoutez, je vous donne un petit livre qui parle un peu plus de Jésus. Et après, je découvre que c'est le Nouveau Testament, mais il ne m'a pas dit. Donc, et je commence à lire le Nouveau Testament. Ce jour-là, la nuit, hein, je commençais à lire 23 heures. Et je commençais à lire, et quand j'ai terminé, enfin... Et c'était le matin pour aller à l'école, donc c'était 6h, 7h du matin. Mais j'étais fasciné par Jésus, par notamment son discours sur le serment sur la montagne, lorsqu'il fait les comparaisons entre la vraie religion, la fausse religion, etc. Il y a beaucoup de sujets, mais je dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais entendu Dieu parler de cette manière. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Après, il y a eu des événements un peu plus personnels, jusqu'au jour où j'ai donné ma vie à Christ.
Ah, très bien. Ma question, c'est
Très bien. Oui, nous, on a beaucoup de... Il faut savoir que le lieu où Mohammed a reçu sa première révélation, c'est la ville de Hira. C'est la grotte de Hira. C'est en 610. Lorsqu'il a reçu sa révélation, ce lieu-là, il y a une église syriaque qu'on a découverte. Hein. C'est l'église qui est sur le dôme de rocher. Actuellement, tous les scientifiques parlent un peu. Il y a beaucoup de publications sur... parce qu'on vient de découvrir cela. Et donc, il y a une grande église. Ceci dit, les influences de l'Arabie, des religions en Arabie avant l'arrivée de l'islam, sont multiples. Il y a des influences chrétiennes, il y a des chrétiens un peu partout. Vous avez, par exemple, dans le nord, vous avez toute une communauté, toute une tribu arabe qui est devenue chrétienne, au contact avec l'Empire sassanide, l'Empire byzantin, pardon, qui est très influencé par le centre d'Alexandrie, qui est un centre chrétien. Après, vous avez aussi dans le sud, à Aksum, le royaume d'Aksum, c'est l'Éthiopie, où il y avait un centre missionnaire très, très influent. Ils ont fondé, ils ont implanté des églises au Yémen, juste de l'autre côté de la mer Rouge. Donc, ils ont implanté des églises au Yémen, qui étaient vraiment très, très influentes aussi. Et Mohammed a été le cousin, l'oncle de la première femme de Mohammed, s'appelle Waraka, qui est un historien. Chrétien historien, l'historianisme. Hein, donc, et il y a aussi des monophysistes, et il avait aussi été aux influences juives. Donc l'influence des différentes religions sur le Coran et sur Mohammed, personne ne le conteste. Hein, même les musulmans se réclament de cela.
Merci. 2, 3, 4, 2. Vécu, quel est le meilleur argument, le meilleur pont qu'on peut établir avec un musulman en parlant avec.
On parle. D'accord. La meilleure chose, c'est vraiment reste de l'ordre de relationnel. C'est la relation. Il faut que vous le... je pense dans la relation, il faut qu'il puisse vous faire confiance plus que à la communauté, parce que si jamais demain il prend la décision de quitter, enfin de devenir chrétien, il faut qu'il soit sûr que vous n'allez pas l'abandonner. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et parfois même dans les églises, je profite de faire une parenthèse pour les églises. Souvent, les anciens musulmans ont des difficultés à s'intégrer un peu dans des églises, à avoir une vie stable un peu dans les églises, ce qui est vraiment dommage. Et j'ai un autre discours lorsque je leur parle à eux. Mais je pense aussi, je pense pour les responsables d'église, pour les pasteurs, il faut s'attendre à ce que, quand vous avez quelqu'un qui débarque comme ça dans l'église, on n'a pas affaire à assurer avec lui simplement ce qu'on assurerait à quelqu'un qui viendrait, par exemple, de la tradition catholique ou un athée. Il va se convertir, mais il garde toujours ses liens, il garde toujours ses relations avec la famille, même si on se moque un peu de lui, mais il reste quand même toujours relié. Ce qui n'est pas le cas dans l'islam, lorsqu'il se convertit, vous avez toute la famille, tout le monde, il coupe toutes ses relations. Donc, il s'attend à ce que l'Église devienne non seulement une famille spirituelle, mais aussi qu'il trouve de nouveaux amis, qu'il trouve de nouveaux... Ah oui, d'accord. Donc, excuse-moi. Ah oui, dans ce cas-là, moi, je pense, n'ayons pas peur d'offrir un évangile. N'ayons pas peur de... Et si vous voulez offrir un évangile, moi, j'encourage. Soit l'évangile de Matthieu, soit l'évangile de Jean. L'évangile de Matthieu, il parle vraiment pour un contexte religieux. Je pense que ça les touche. Enfin, personnellement, c'est l'évangile qui m'a marqué. Et l'évangile de Jean aussi m'a marqué dans mon parcours avant de prendre ma décision. C'est quand même sur la base de l'évangile de Jean. Donc, les deux, je pense, si vous pouvez leur offrir, n'ayez pas peur de leur offrir. Dans l'Ancien Testament, une fois que converti à Christ, c'est tout l'Ancien Testament qui me touche. Oui. D'accord. D'accord. Je vais répondre rapidement, mais j'espère que je vais être bien compris. J'aimerais répondre sur plan linguistique. Allah, c'est exactement pareil que Elohim. Est-ce que dans l'Ancien Testament, Elohim est utilisé pour parler de Dieu qui a donné son nom, Yahvé, je suis. C'est exactement pareil. Maintenant, on peut dire, je ne suis pas arabe, d'autant plus je me sens la liberté de le dire. On peut dire à nos amis, à nos frères et sœurs, dans la foi arabe, on peut leur dire de ne pas utiliser le terme de Allah. D'accord ? Attendez, vous m'avez posé la question, donc il faut me laisser finir jusqu'au bout. Donc, on peut leur demander de ne pas utiliser le nom de Allah. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on s'interdise d'utiliser le nom de Dieu si le français est notre langue maternelle. dans nos prières. Il faut qu'on s'adresse à Dieu par notre Père, Seigneur Jésus, mais qu'on bannisse le nom de Dieu dans notre vocabulaire. C'est le même théos qui est employé aussi dans le Nouveau Testament pour parler de Dieu révélé par Jésus-Christ. Personnellement, au lieu de se perdre dans Actes 17, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il a dit même à ce Dieu inconnu. Il est parti de ce Dieu inconnu pour arriver au Dieu révélé par Jésus-Christ. Mais quelle belle intelligence! Je veux dire, franchement, au lieu de chercher si on a le droit ou on n'a pas le droit, cherchant à établir des ponts, après conduisons les gens à rencontrer ce Dieu révélé par Jésus-Christ. Et à partir du moment où la personne s'adresse, si c'était un chrétien arabe qui s'adresse à Dieu, au nom de Jésus-Christ qu'il appelle Allah, moi ça ne me choquerait absolument pas du point de vue linguistique. Maintenant, j'entends votre remarque, pour des raisons culturelles, surtout pour un ancien musulman qui vient de l'islam, il veut absolument couper comme un ancien catholique qui viendrait et à qui on parlerait de Marie, il devient tout de suite... voilà, donc pourquoi pas? Si c'est pour des raisons pédagogiques, oui, mais pour des raisons théologiques, je n'ai pas encore trouvé la raison satisfaisante pour ne pas l'utiliser. Je veux dire, vous savez, Mohammed, il s'appelle fils de Allah, Abdallah. Son père s'appelle Abdallah, c'est-à-dire serviteur de Allah. Le nom de Allah existait déjà. Les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, au 1er, 2e, 3e siècle, utilisaient le nom de Allah pour parler à Dieu en Jésus-Christ. Donc, je ne vois pas pourquoi, au 7e siècle, on va céder son nom. Enfin, si j'étais arabe, je ne pense pas que je le ferais. Mais je ne suis pas arabe, je suis kabyle, donc...
Merci beaucoup. Ouais.